Après 2 heures d'attente, c'est au tour de Galien. Il est entré dans un bureau qui est plutôt un petit cagibi. Une femme est assise à son bureau devant un ordinateur. La femme est dans les 45 ans, blonde, bouclée, à lunettes, chemisier blanc, jupe marine. Asseyez-vous. Elle lui dit, je vous écoute. Il est surpris, il lui dit, je viens pour m'inscrire. Elle lui dit, bien, il faut toujours dire pourquoi l'on est venu. Ceci fait partie des relations humaines. Si vous voulez travailler, trouver un emploi, on le peut. Mais il faut le vouloir. Et une personne qui le veut, ça se sent. Bon, alors, vous êtes déjà inscrit chez nous? Non, madame. Bien. Derrière elle se trouve une pile de dossiers mise sur une table. Elle en prend un, le lui tend. Vous allez me remplir tout ça. Après, vous reviendrez me rendre ce dossier pour que je puisse vous inscrire. Car sans le dossier, je ne connais rien de vous. Il lui dit, mais si vous voulez, je peux vous dire ce que je suis et vous pourrez y inscrire sur l'ordinateur. Elle lui dit, non, surtout pas. Ça doit se faire comme ça. Ce serait trop simple, ce que vous dites. Le chômeur entre dans le monde de l'absurde. Il faut tout faire pour lui compliquer la vie. Et oui, c'est la vie. À demain.
Il se lève et sort. Chez lui, il s'assoit à table pour lire le dossier qu'il doit remplir. Nom, prénom, naissance, nationalité, adresse, sécurité sociale, diplôme, qualification, adresse employeur, situation de famille, maladie, loisir. Quel emploi recherchez-vous? Stage, aimeriez-vous déménager, vous expatrier, etc., etc. Galien se dit, pour ce qui est de l'employeur, je dirais jeune tout, je ferai moi-même un papier. Adresse ici, emploi manutentionnaire, voilà. Et le lendemain, il va à la NPE à 8h30. il attend 1h30.
C'est la même femme qui le reçoit.
Elle lui dit : Eh bien voilà, on a réussi à faire son petit dossier. C'est bien. Quand on en veut, on peut tout. Bien, voyons. Elle ouvre le dossier. Soupir. Étape. Une fois qu'elle est finie, elle lui dit. Une fois qu'elle est finie, il dit : Vous viendrez tous les jours voir les annonces. Et une fois par mois, vous viendrez vous faire pointer. Et vous viendrez me voir une fois par mois aussi. Mais à peu près une fois par mois. Hein ? Les ascédiques vous payeront pendant 2 mois 3000 francs. 1 mois 2000 francs. Puis 1 mois 1000 francs. Puis 500 francs. Et puis. Plus rien. Demain, vous viendrez pour voir la conseillère à l'emploi. Elle va vous expliquer beaucoup de choses pour vous faire embaucher, même s'il n'y a pas d'embauche. Voilà. Il est l'heure de ma pause café. Au revoir, monsieur. Et il décide, c'est de revenir le lendemain. Va vers la secrétaire à la conseillère pour l'emploi. Elle lui dit : Il faut prendre rendez-vous. La conseillère n'est pas toujours ici. Elle travaille que quelques heures par jour. Voyons. Jeudi à 14h30, cela vous va-t-il ? Oui, madame. Bien, je le marque. Au revoir, madame. Au revoir. Galien est décidé d'aller jusqu'au bout pour voir jusqu'où vont les choses. descendant les escaliers de son immeuble, il rencontre Martine. Il lui dit « Bonjour ». Elle lui répond « Bonjour, nous vous voyons plus, vous avez trouvé du travail ?»«
Non, je vais à la NPE pour mes papiers. » Elle lui dit « Je comprends, lorsqu'on va là-bas, on n'a plus le temps de faire quoi que ce soit, même de chercher du travail. »
« Moi, je n'y vais plus.
Et puis, j'ai plus rien comme aide, alors. »
Il lui demande « Vous vivez comment ?»« Ma tante m'envoie un chèque et puis quelques provisions, qu'est-ce qu'elle en a, lorsqu'elle en a ?»«
Je vis d'une façon très simple. Il me suffit de peu. »
Galien trouve la jeune fille charmante. Une vraie jeune fille. Simple.
Lorsqu'il se trouve dehors, elle lui demande « Vous allez où ?»«
Je vais à l'épicerie, moi de l'autre côté. »
Elle l'embrasse sur la joue et elle s'éloigne. Gaïen se sent toute chose.
« C'est une jeune fille charmante. »
Il se retourne et voit qui lui a parlé. C'est le concierge. Il lui dit
« Oui, elle est charmante. »
Le concierge lui dit
« Les temps sont durs, il faut se méfier. Mais... » Moi qui fais partie du comité de vigilance, je surveille la nuit. Je fais des rondes pour surveiller le quartier. Il y a tellement d'étrangers par ici. On ne sait pas d'où ils viennent. Il faut se méfier. Il y a une femme qui s'est fait éventrer chez elle. On l'a retrouvée toute ouverte, son corps à terre. Une véritable boucherie. L'étranger a dû entrer chez elle. Elle l'a fait entrer. Il faut se méfier, monsieur. Vous êtes un garçon gentil. Faites bien attention. Remarquez, je me confie à vous, mais là-bas, il faut faire attention de nos jours. Vous, l'on voit que vous êtes quelqu'un de sérieux, propre. Et puis vous cherchez du travail. Ce n'est pas comme ces feignants. D'ailleurs, je l'ai dit à votre logeuse. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle savait à qui elle avait affaire. Vous êtes quelqu'un de très sérieux.
Un homme passe devant eux, tête basse, chauve sur le devant, cheveux gris, tête osseuse, visage triste, pas très grand, habillé d'un pantalon gris et d'une veste en laine beige. Le concierge montre l'homme et lui dit
« C'est pas comme celui-là, un sale type, mauvaise idée, ancien syndicaliste, une crapule. » Ça fait 10 ans qu'il ne travaille pas. Mais lui, c'est pas comme vous. Il le fait exprès. C'est pour vivre sur le dos des pauvres mondes. Des gens comme moi, qui travaillent pour payer les allocations des gens comme eux. Mais on le surveille. Il parle à des étrangers aussi. Ce sont ces gens-là qui ruinent la France.
Gaïa lui dit, je suis obligé de vous quitter. J'ai rendez-vous avec mon conseillère d'emploi. Le concierge lui dit,
oui, je vois bien. Allez-y.
Et Gaïa le quitte.
Arrivé à la NPE. Bonjour, j'ai rendez-vous avec la conseillère pour l'emploi.
Oui, je vous reconnais. Vous avez rendez-vous à 14h30.
Bon,
vous pouvez y aller. Elle vous attend.
Entrez.
Bonjour madame.
Venez vous asseoir.
La conseillère, ce genre de personne qui a un carnet de rendez-vous plein et qui ne sert à rien. Son bureau est une grande pièce un peu sombre. Elle a dans les 40 ans, cheveux blonds, genre femme du monde, robe beige. Elle n'a jamais eu à chercher de travail, elle a toujours vécu chez son père, ancien avocat, homme qui, une fois que sa femme est morte, a fait de sa fille sa femme. La façon dont elle est dans son bureau, l'on sent qu'elle n'est là que de passage, une heure ou deux par semaine pour montrer que si elle a une paye, c'est parce qu'elle fait quelque chose. Son sac à main est sur le bureau, avec dessus un châle et rien d'autre sur le bureau à part un briquet en or du pont et un paquet de cigarettes. Elle dit à Galien :
Alors, vous cherchez du travail, n'est-ce pas ?
Oui, madame.
C'est bien ça. Quel genre de travail ?
Galien lui dit : Justement, je ne sais pas, et c'est pour cela que je suis ici.
Vous voulez que je vous aide ?
Elle prend une cigarette dans son paquet, le briquet, l'allume et fume.
Vous avez bien fait de venir me voir. Parce que voyez-vous, c'est tout un travail de chercher du travail. Il faut savoir le faire. Faut-vous savoir vous présenter chez le recruteur, faire son curriculum vitae, bien, avec un ordinateur et tout, quoi.
Galien se demande comment font les chômeurs pour le faire sur un ordinateur, leur curriculum vitae. Galien lui dit, mais si les gens n'ont pas d'ordinateur,
mais tout le monde en a un, voyons. Même mon neveu qui a 5 ans en a un et tape tous les devoirs de maternelle dessus. Il lui fait même des dessins. Je suis allé la semaine dernière à Calcutta et j'ai vu la sœur, je ne sais plus qui, celle qui remplace Mère Teresa, distribuer aux jeunes un ordinateur portable. Vous voyez, même les pauvres de Calcutta qui crèvent de faim ont un ordinateur.
À quoi cela leur sert-il ?
Ils écrivent leur curriculum vitae pour avoir de l'aide. Et puis, c'est le progrès. On donne plus du pain aux pauvres, mais de l'information. Et pour qu'ils puissent dialoguer avec le monde. Un pauvre n'est plus un pauvre de sa rue, mais de la terre entière. Voilà. Mais revenons à vous. Quel métier vous plairait-il ?
Je ne sais pas, elle lui dit.
Vous, je vous verrai bien garagiste. J'ai justement un stage pour ça. Si vous voulez, je peux. Vous apprendrez à démonter et à remonter une voiture.
Mais j'y connais rien en mécanique.
Qu'est-ce que vous faisiez avant ?
J'étais plongeur dans un restaurant.
Eh bien, c'est la même chose. Au lieu de plonger dans l'eau de vaisselle pour nettoyer la vaisselle, vous plongerez dans le cambouis pour nettoyer la ferraille. Voilà ! De toute façon, je n'ai rien d'autre.
Galien lui dit, « Non, merci. » Elle lui dit en regardant sa montre,
« Bien, de toute façon, je n'ai rien d'autre. Si vous avez besoin de conseils positifs comme nous l'avons eu, prenez rendez-vous avec moi. Je suis ici le premier mardi de chaque mois, de 15h à 16h. Attention, il y a beaucoup de listes d'attente. Je suis très demandé. Au revoir, monsieur. »
Galien se lève.
Au revoir, madame.
Il entend la femme faire un numéro.
Allô, Roger, oui, j'arrive, j'ai fini. Ouf, c'est terrible pour le métier. Prépare-moi vite un bon gin à orange, ça me remettra.
Dehors, il se dit. Et bien voilà. J'ai fait le tour de la NPE, un véritable repère de planqués. Le lendemain, à son bureau.
Allô ? J'aimerais que M. Danfort puisse venir à mon bureau le plus rapidement possible.
C'est très urgent. Merci.
Entrez. C'est M. Danfort. Entrez, M. Danfort, et venez vous asseoir.
Monsieur le Président.
Je vous ai fait venir, c'est pour savoir si vous avez embauché en ce moment. Danfort lui dit.
Oui, monsieur. Nous avons embauché 15 000 personnes pour le projet Continent. Et nous allons embaucher 1 million pour le bateau, sans compter les emplois pour les autres entreprises. Comme pour l'ordinateur ADN, nous avons créé des emplois pour prendre l'ADN des hommes illustres, De Gaulle, Kennedy, etc. Callien lui dit,
« Je suis heureux que nous embauchons. » Danfort lui dit,
« Nous sommes la seule entreprise de France qui embauchons en ce moment. Même Pontoise n'embauche plus. Les chiffres du chômage baissent grâce à nous. Mais ne craignez rien. Toutes ces embauches ne vont pas nous ruiner. Il y a beaucoup d'accidents dans la fabrication du Continent et cela nous permet d'avoir des organes, de l'ADN pour rien. Tout bénéfice pour nous. Les gens travaillent et après, une fois morts, nous récupérons le corps.
Et bientôt, des chimères, des robots, des mutants vont remplacer tous ces hommes. Là, nous aurons des gens qui travailleront pour rien pour nous. Ne vous faites pas de soucis. Galien furieux lui dit,
mais je ne veux pas. Je ne veux pas que nous gardions. Je veux que nous gardions ces hommes et que nous ne faisons pas du bétail à organes.
L'enfant lui dit,
faisons pas des ouvriers du bétail. Mais il faut bien faire du bénéfice. Toute cette manœuvre coûte cher. Ce serait notre ruine si on agissait autrement. Nous ne sommes plus dans les années 50-60 où l'on pouvait laisser un ouvrier faire carrière dans l'entreprise. Vous vous rendez compte? Les augmentations, l'ancienneté, les primes, et il saurait trop de choses sur son métier, comment le remplacer? Tandis que là, en changeant souvent, les gens savent juste ce qu'il faut et ont juste ce qu'il faut comme salaire. Ils n'osent pas demander plus parce qu'ils sont trop nouveaux. Tandis que les anciens avaient le culot d'augmenter de l'augmentation, de tenir tête à leur patron et de se syndicaliser. Ce serait la ruine, Galien lui dit.
Galien lui dit, mais non, nous faisons du 500% de bénéfice. Notre matière première, ce n'est rien. Des bactéries, l'ADN, des organes, le tout prix sur des morts, gratuitement. Et pour ce qui est de l'ancienneté, c'est bon un ouvrier qui a de l'expérience, et c'est mieux travailler qu'un autre. Notre devoir civique de citoyen est d'aider la France, le peuple, c'est de faire du social et pas que de l'argent,
Danfort lui dit.
Danfort lui dit,
nous aidons la France pour la faire rayonner de partout dans le monde. Grâce à nous découvertes, notre rôle dans la société, ce n'est pas de faire de l'humanitaire. Pour cela, il y a des entreprises qui le font mieux que nous. C'est un métier, l'humanitaire. Nous, c'est la science, les produits biotechniques, les avions, les bateaux, les ordinateurs. La société a besoin de ça aussi. S'il n'y avait que l'humanitaire, il n'y aurait rien, pas de société. Notre rôle est plus important que le leur.
Nous allons changer le monde, le faire plus beau, plus humain, que Dieu l'a fait. Nous allons faire mieux que Dieu. D'ailleurs, Dieu, en créant le monde, ne s'était pas soucié de le faire de l'humanitaire. Il a créé et a laissé les hommes se débrouiller. Nous ne pouvons pas faire mieux que lui. À ce sujet, nous ferons comme lui, mais en créant un monde meilleur, et c'est aux hommes à se débrouiller pour être plus heureux. Nous ne pouvons pas tout faire, faire la soupe et la distribuer. Si on le ferait, on nous attaquerait, parce qu'on dirait que l'on monopolise le monde. Chacun a le droit de s'occuper d'une tâche dans le monde. Nous, nous faisons une chose, un autre fera l'humanitaire, c'est-à-dire la répartition des choses équitablement, etc., etc. »
Galien lui dit. « Dans l'abstrait, c'est bien ce que vous dites, mais dans la vie, tous ces gens qui souffrent, bien là tellement, il faut faire quelque chose pour eux. »
L'enfant lui dit. « Il y a des organismes pour ça. »
Galien lui dit. « Oui, la NPE, par exemple. »«
Oui, ils sont payés pour ça. »
Galien lui dit. « Peut-être bien, mais ils ne font rien. »«
Nous n'y sommes pour rien, si les autres ne font pas leur travail comme il faut. »« Nous, nous devons faire le nôtre comme il faut. » Et ce n'est pas à nous pour faire ceux des autres. »
Galien lui dit, donc nous ne faisons rien pour les démunis, malgré que nous enrichissons.
L'enfant lui dit, l'entreprise s'enrichit pour elle-même, pas pour faire du social. Pour cela, il y a le gouvernement. De toute façon, comme chaque fois que le gouvernement fait du social, c'est pour nous prendre de l'argent, ce qui fait que l'on en fait tout de même. Ne faisons pas plus que ce que l'on nous demande. Car si l'on fait plus que ça, ça voudra dire que l'on peut plus et plus on nous donnons, plus on nous en demandera. Ce qui nous mènera à la ruine et remplira les caisses de l'État. Le social se fait avec nous, pas qu'avec nous.
Galien lui dit. Bien! Mais à quoi cela va-t-il servir si l'on fait des chimères ou autres, puisqu'il n'y a pas de travail pour les hommes ?
Ce n'est pas nous qui le faisons, ce seront les autres. Et puis, les chimères permettront de faire des travaux que les hommes ont des difficultés à faire ou ne peuvent pas. Elles ne vont pas remplacer les hommes, mais les compléter.
Galien lui dit, je comprends. Mais cela veut dire que les pauvres resteront toujours pauvres et les riches encore plus riches.
L'enfant lui dit, c'est la loi de la sélection. Chez les animaux, il n'y a que les animaux en bonne santé qui restent en vie.
Galien lui dit, pour conclure tout ça, je vous demande, c'est d'éviter de renvoyer les gens. Moins il y aura des chômeurs, moins il y aura de charges et de lois sociales, ce qui fait que nous avons tout à y gagner.
L'enfant lui dit, cela fait la même chose. Que l'on donne d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Que l'on donne au gouvernement ou que l'on donne aux ouvriers.
Galien lui dit, pas tout à fait. Le gouvernement en recevra moins et les ouvriers auront tout de même plus que 2000 francs par mois.
L'enfant lui dit, bien, nous ferons comme vous l'avez dit.
Merci. De toute façon, nous allons faire de très grands bénéfices avec tous ces projets.
Chez Martine. Elle lui a ouvert.
Bonjour, j'espère que je ne vous dérange pas.
Non, pas du tout.
Il lui dit, voilà, j'ai pensé, c'est que nous pourrions manger ensemble. J'ai apporté quelques petites choses. Entrez.
Il entre. Elle ferme la porte derrière lui.
Il lui tend un panier. « Tenez, c'est pour le repas. » Elle lui dit, « Merci, mais il ne fallait pas. » Il lui dit,
« Oh, c'est surtout que j'avais pas envie de faire la cuisine. »
Elle regarde le panier.
« Mais comment avez-vous tout ça ? Du poulet ? De la salade ? Des pommes de terre ? Du fromage ? Du beurre ? Et des petits gâteaux ?
J'ai oublié le vin. » Elle lui dit,
« Mais ça a dû coûter une fortune !»
ne répond pas.
Vous avez reçu un héritage ?
Non, ce n'est rien. J'ai aidé un épicier et il m'a payé en nature.
Mais c'est votre salaire, vous auriez dû le garder.
Non, ne vous en faites pas, j'en ai encore chez moi.
Feriez mieux c'est d'aller préparer tout ça. J'ai très faim.
Et vous ?
Moi aussi.
Alors, vous allez à la salle à manger, moi je vais à la cuisine.
Deux heures plus tard, ils sont en train de manger. Elle lui dit, c'est délicieux, mais ça doit être du luxe.
Pensez-vous ?
Elle lui demande, alors vous avez trouvé du travail ?
Oui, mais maintenant c'est fini. C'était juste pour quelques jours.
Elle sourit et lui dit, vous faites un repas pour fêter la fin de votre travail alors ?
Oui, si l'on veut. Puis... j'ai trouvé ce prétexte, c'est pour être près de vous.
Merci. Il lui dit.
Non, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes tellement délicieuse. Un vrai rayon de soleil dans cette vie terne. Les gens se sentent heureux, rien que par votre présence.
Elle sourit et lui dit.
Merci.
Après le repas, il l'a aidé à débarrasser la table. Et à faire la vaisselle.
Il lui dit, c'est la première fois que je la fais.
Elle lui demande,
même pas chez vous ?
Non, jamais j'allais s'égoutter.
Elle lui dit, eh bien, c'est dégoûtant. L'eau avant de s'évaporer stagne sur l'assiette et dépose des bactéries minuscules ou autres. Ce risque-ci risque de vous apporter des tonnes maladies.
Il lui dit. Heureusement que je vous l'ai dit, je ne le ferai plus. Une fois qu'ils ont fini de faire la vaisselle, ils retournent dans la salle à manger.
Ils vont s'asseoir l'un en face de l'autre.
Elle lui demande,
vous voulez boire quelque chose ?
Non, merci. J'ai bien bu et mangé.
Dis-moi, qui était avec moi ?
Il y a eu un bruit, puis des cris dans la rue. Ils se sont mis à la fenêtre. C'est un immeuble qui a été triplé de balles. Des gens se mettent à la fenêtre, les autres sortent de l'immeuble. Il y a des gens allongés à terre, ils sont pleins de sang. Les gens les entourent, n'osent pas les toucher. Un homme sort de l'immeuble qui a été triplé de balles. Il est grand, fort, en pyjama, gris. Il se met à crier « Venez vite! Il y a des blessés dans l'immeuble! Des femmes, des enfants, des hommes! Venez vite !» Les gens le regardent et n'osent pas bouger. Martine crie « Il faut faire quelque chose! Téléphonez à la pompier, à la police !» Elle dit à Galien « Il faut aller les aider. Je vais avec vous. » Elle sort de la pièce, va dans la salle d'eau, prend dans la pharmacie tout ce qu'elle a et met dans son sac de voyage. Galien le lui prend et ils sortent de l'immeuble. Une fois en bas, elle se précipite vers les gens allongés. Galien la suit. Elle dit à la foule « Si vous voulez ne rien faire, laissez la place, merci. » Elle se penche vers les gens. Ils sont tous morts. Vite, elle entre dans l'immeuble. Il y a des cris, des pleurs. L'allée est pleine de monde. Des gens qui sortent des appartements. Les portes sont ouvertes. Sur le palier se trouvent des gens blessés qui crient. Elle les soigne comme elle peut, avec des pansements, de l'éther, de l'antimicrobien. Elle demande à une vieille femme, à cheveux blancs et robe de chambre rose, avec à qui elle fait un pansement.
« Pourquoi tout ça ?» Elle lui dit. « Je sais pas, c'est venu comme ça. Des hommes, un noir, ont frappé à toutes les portes et ont tué. »
Les gens, pour la plupart, sont en pyjama ou presque nus. Il y a des femmes, des enfants, des hommes. Martine fait comme elle peut, bien entendu, ne peut pas leur enlever à tous les balles. Elle fait maintenir les blessés par Galien, qui verse de l'alcool sur la plaie et avec un crochet et une pince, elle essaye d'enlever la balle. Cela fait très mal, mais ne peut pas faire autrement. Ils ont du sang partout, sur les vêtements, au visage. Elle va d'un blessé à l'autre, Galien la suit.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.